J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Bartas
107 FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Bonjour les auditrices et auditeurs de Radio Bartas 107 FM. Vous revoici dans Palabre en forêt. Bonjour Margot.
Bonjour Virginie, bonjour à toutes et tous.
Alors Margot, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on va rencontrer Loïc Moline, qui travaille au Centre Régional de la Propriété Forestière et qui nous parlera de gestion irrégulière des forêts et de ProSylva. Et puis Émeric Sulmont, garde-moniteur au Parc National des Cévennes, nous parlera d'une espèce d'insecte dans sa rubrique qui évolue, plantes et animaux des bois.
Bonjour Loïc Moline. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est le Centre Régional de la Propriété Forestière et quelles sont tes missions ?
Oui, bonjour à tous. Donc je suis Loïc Moline, je travaille effectivement au Centre Régional de la Propriété Forestière, qui est un établissement public qui dépend du ministère de l'Agriculture et de la Forêt et qui œuvre en forêt privée. Nous avons plusieurs missions qui sont... L'information et le conseil des propriétaires forestiers privés, donc les particuliers qui possèdent des parcelles boisées. Nous assumons aussi un rôle de diffusion de la connaissance à travers des revues techniques ou des formations que l'on dispense aux propriétaires forestiers. Et puis, nous occupons aussi principalement de la promotion et de l'instruction des documents de gestion durable en forêt privée. Ce sont des documents qui permettent en fait aux propriétaires d'avoir une vision sur le moyen et long terme de la gestion de leur peuplement forestier. Et nous les accompagnons et nous instruisons officiellement ces documents. Enfin, de manière peut-être un peu plus marginale, mais c'est une activité qui gagne de plus en plus, nous faisons du développement technique en essayant de développer et promouvoir des sylvicultures ou des techniques utiles pour les propriétaires, mais aussi pour les gestionnaires. Et donc, ces techniques sont en lien avec le changement climatique ou la sylviculture irrégulière dont on va parler aujourd'hui.
Et donc, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste la gestion irrégulière des forêts ?
Alors, il me faudrait un petit peu plus qu'un quart d'heure pour discuter de tout ça, parce que c'est un thème passionnant. Mais donc la sylviculture irrégulière, elle possède plusieurs noms. On parle d'elle en sylviculture irrégulière continue et proche de la nature, sylviculture mélangée à couvert continu. Et les Italiens parlent même de sylviculture invisible, puisque l'on travaille dans ces peuplements sans impact notable sur l'espace forestier. Donc c'est une sylviculture qui s'appuie sur deux principes fondamentaux. Le premier principe, c'est la continuité du couvert forestier au cours du temps. C'est-à-dire que, sauf événement exceptionnel, il n'y aura jamais de coupe rase dans le peuplement forestier. Donc ça va avoir tout un tas d'incidences sur le fonctionnement de notre écosystème forestier, avec le maintien des sols et de tous les phénomènes naturels à l'œuvre. Et le second principe, c'est que on va réaliser ce qu'on appelle une sylviculture d'arbres. On va s'intéresser aux qualités individuelles de chaque arbre et on va pas faire de la production de masse, mais on va plutôt faire une production ciblée sur chaque individu ayant des caractéristiques propres. Donc soit il est propice à la production de bois de qualité, soit c'est un semencier, soit c'est un diversificateur, etc. Et le sylviculteur qui fait de la futée irrégulière, eh bien, on va essayer de valoriser ces individualités-là pour obtenir la meilleure rentabilité possible dans le cadre d'une gestion durable.
Alors, tu viens de nous évoquer pas mal d'avantages. Est-ce que tu peux nous récapituler pour toi quels sont les avantages et les inconvénients de cette gestion forestière ?
Oui, on peut essayer de faire ça, effectivement. Alors, comme je vous l'ai expliqué, enfin, très très succinctement, la sylviculture irrégulière, elle s'appuie sur les dynamiques naturelles. Et donc, on va essayer de maximiser en fait ce que la nature offre gratuitement aux propriétaires forestiers et à la forêt. Donc, ça peut être l'obtention de régénération naturelle, ça peut être des phénomènes d'élagage qui vont permettre de produire du bois de meilleure qualité. Tout ça, c'est gratuit, c'est offert par la nature, et il suffit, entre guillemets, pour le forestier, eh bien, d'orienter sa gestion pour valoriser au maximum ses services rendus. Donc ça, c'est un exemple. Donc on s'appuie vraiment sur ce que la forêt peut nous apporter. Parmi les autres avantages qui sont quand même très notables, il y a ceux qui sont liés à la continuité du couvert forestier. Et donc on pense, bah, dans les Cévennes, bien sûr, à la protection des sols, qui est forcément assurée et garantie au cours du temps, au maintien des paysages dans nos lieux assez touristiques, au maintien des habitats qui permettent d'accueillir de la faune et de la flore. Et tout ça bah, nous permet en fait de rationaliser les coûts, et la pertinence économique de la sylviculture irrégulière, elle vient de là, elle vient du fait qu'on a toujours de la production de bois, et on va limiter les travaux, et on va essayer de maximiser les bénéfices par le biais de vente de coupes de bois. Et enfin, je dirais qu'un intérêt aussi pour les propriétaires, c'est que les générations de propriétaires peuvent travailler un peu main dans la main et dans la continuité. Il n'y a pas un qui fait des investissements et l'autre qui va récolter. Là, en fait, on œuvre tout le temps pour l'amélioration continue de notre forêt. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant, en fait, pour une gestion patrimoniale et la propriété. En ce qui concerne les inconvénients, on peut par contre évoquer bien en fait le fait que c'est une sylviculture assez technique. Il faut bien comprendre le fonctionnement de l'écosystème forestier pour pouvoir l'orienter correctement. D'autres systèmes de sylviculture sont un peu plus simples et plus accessibles à des novices. Et donc c'est ce qui en fait un peu une des particularités, et c'est ce qui fait que tout le monde ne se jette pas sur la sylviculture irrégulière.
Et quand on parle de sylviculture irrégulière, on entend parler aussi parfois de ProSylva. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ?
Oui. Alors ProSylva, en fait, c'est une association. C'est une association qui a été reconnue d'ailleurs d'utilité publique et qui a pour objectif en fait de faire la promotion des principes de la sylviculture irrégulière. ProSylva est décliné à travers le monde. Il y a plusieurs associations nationales chez nos voisins belges, allemands, etc. Et en ce qui concerne ProSylva France, eh bien, on compte à peu près 500 membres qui se décomposent principalement d'amoureux de la forêt, mais que ce soit des propriétaires, des experts forestiers, des conseillers, des membres de conseils scientifiques. Et tout ce petit monde, eh bien, essaye de travailler en commun, en partageant en fait des compétences pour faire connaître en fait cette sylviculture au plus grand nombre. ProSylva donc essaye d'organiser un certain nombre d'événements, des journées à destination du grand public, des formations pour les forestiers, et puis s'investit aussi pas mal en fait dans la recherche et le développement autour de la sylviculture irrégulière.
Tu as parlé tout à l'heure que le Centre régional de la propriété forestière avait justement des actions en matière de développement forestier. Et à ce titre, vous avez développé la forêt irrégulière école. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, la forêt irrégulière école, la FIE, eh bien, c'est un... C'est quelque chose d'assez particulier, hein, puisqu'en fait, il n'en existe que deux en France. La première est née chez nous, dans les Cévennes, donc la forêt irrégulière du Bougès. La seconde a vu le jour à Auberive, sur le parc national des forêts feuillues de plaine. Et l'idée, en fait, autour des forêts irrégulières écoles, eh bien, c'est de concentrer et mutualiser les savoirs et les compétences des différents partenaires forestiers autour de ce thème qui est le développement de la sylviculture irrégulière sur un territoire. Donc, en ce qui nous concerne, sur la forêt irrégulière école du Bougès, nous sommes à peu près une quinzaine de partenaires à travailler de concert pour, en numéro un, acquérir des savoirs et des compétences sur cette sylviculture. Donc ce sont des savoirs techniques, économiques, écologiques, pratiques, à partir d'exemples concrets de réalisation sur le terrain. Et en numéro 2, eh bien, nous essayons de diffuser ces savoirs acquis à travers des formations pour différents publics. Donc parmi les publics, on retrouve bien les gestionnaires forestiers professionnels, les propriétaires, bien évidemment, mais aussi les étudiants forestiers qui seront bien l'avenir des forestiers de demain. Et enfin, nous essayons de sensibiliser des élus et des associations à cette sylviculture-là à travers différents outils que nous développons et qui sont des outils pédagogiques qui s'appuient sur les exemples concrets que nous avons pu mettre en œuvre sur le territoire.
Et est-ce que tu as une idée du nombre de personnes qui est sensibilisée grâce à cet outil ?
Alors, la forêt régulière école en Cévennes a réellement démarré en 2016. Nous avons commencé les premières expériences et expérimentations. Et depuis, en fait, la création, ce sont plus de 400 personnes qui sont passées sur le territoire de la FIE. Et plus de 200 ont suivi des formations sur plusieurs journées. On va retrouver des élèves forestiers en BTS, hein. Certains venaient de Poisy, de plus localement de Javol, d'autres de Montélimar. Et puis, nous avons un certain nombre de propriétaires forestiers locaux qui sont venus s'exercer à cette technique-là. Et enfin, de manière un peu plus atypique, nous avons même eu des Catalans qui sont venus découvrir le principe de la forêt régulière école et découvrir un petit peu les savoirs que nous avions acquis et les façons de les transmettre.
Et quelles sont vos prochaines actions alors à venir dans le cadre de la forêt régulière école ?
Alors, nos ambitions sont multiples. Donc, nous avons commencé à acquérir des savoirs et à développer ce que l'on appelait des modules de formation. Puisque quand on parle d'irrégulier, en fait, il y a plein de choses à savoir. Hein. Donc, il y a les principes de cette sylviculture, mais ensuite, il faut savoir décrire les peuplements forestiers, définir les orientations de gestion, marteler, mettre en œuvre des travaux, etc. Et donc, ce que nous souhaitons, en fait, prochainement, c'est développer, en fait, et mettre en œuvre les modules de formation que nous avons imaginés, en créer d'autres pour répondre aux attentes des professionnels. Et donc ça sera notre première étape clé en lien avec les professionnels et notamment les entrepreneurs de travaux forestiers. Et enfin, nous avons une autre ambition qui a été définie collectivement comme étant prioritaire, et bien c'est l'acquisition de savoir sur de savoir en lien avec la gestion des peuplements mélangés. Donc, comment est-ce qu'on gère ces peuplements-là? Qu'est-ce qu'ils apportent? Quand on n'a pas ce mélange, comment est-ce qu'on peut le créer et l'initier de manière la plus intelligente et pertinente possible? Donc, cette vaste question des mélanges, qui sera un enjeu de demain pour les forêts soumises au changement climatique, eh bien, ça fera partie du cœur de notre sujet aussi au sein de la forêt régulière école.
En 2021, donc l'an passé, une action de formation des élus a été organisée par ProSylva, donc le CRPF en partenariat avec les deux chartes forestières du PETR Sulozère et du Pays Cévennes. Quel était l'objectif du coup de cette formation d'élus ?
Eh bien, l'objectif était en fait de contacter une cible que nous avions un petit peu laissée de côté jusqu'à présent, puisque le CRPF a l'habitude de s'adresser à des propriétaires forestiers privés. L'ONF travaille beaucoup en interne, mais il faut savoir quand même que les élus, jouent un vrai rôle d'aménageur du territoire. Ce sont la plupart du temps les premiers interlocuteurs des habitants qui sont souvent propriétaires forestiers sur la commune. Et ces élus, en fait, jouent un rôle clé pour amorcer des dynamiques. Et donc il nous semblait important en fait de leur faire découvrir ce qu'était la sylviculture irrégulière pour qu'ils comprennent tenant et aboutissant, et de ce fait ils seront en fait les premiers relais pour diffuser cette pratique sur le territoire. Il est clair que on peut trouver tout un tas d'intérêts pour des propriétaires, pour des gestionnaires, pour la filière. Au niveau de nos territoires, au niveau des habitants, la sylviculture irrégulière aussi a, à trois enjeux clés et trois intérêts clés, à mon avis. Le premier point, c'est le maintien des paysages. Et quand on est dans les Cévennes, c'est essentiel parce qu'on est un territoire de tourisme. Le deuxième enjeu clé, il est à mon avis autour de l'emploi, puisque en sylviculture irrégulière, on a besoin de bûcherons, de débardeurs, de haut niveau, de bonne qualité, et ces emplois-là sont non délocalisables. Le bois produit, qui est recherché et censé être de haute qualité, et donc c'est ce bois de haute qualité qui génère le plus d'emplois aussi pour un territoire, ça c'est assez connu par différentes études. Donc il y a une vraie retombée, on va dire, sur les emplois directs que peut générer cette sylviculture pour nos territoires. Et enfin, je pense qu'une question qui peut préoccuper aussi les élus, eh bien, c'est la question des changements climatiques. Et avec la sylviculture irrégulière, on a quelques idées, quelques pistes pour intégrer ces changements climatiques dans la gestion et le maintien de nos forêts en bonne santé. Et donc, ça passe notamment par la diversité des structures, par la diversité des essences, par une adaptation très précise aux potentialités de notre sol, etc. Et donc, pour ces différentes raisons, eh bien, il nous avait semblé, en fait, pertinent avec vous, animatrice de charte forestière de territoire, eh bien, d'inciter les élus à découvrir ce mode de gestion.
Et justement, donc, il s'agissait, en fait, d'une formation action, c'est-à-dire qu'à la clôture de cette formation, et ben t'avais fait travailler un petit peu les élus sur un plan d'action, un petit plan d'action. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler et comment il vivra ce plan d'action? Quelles seront les suites à donner?
Oui, alors c'est vrai que la matinée avait été utilisée en découvrant un cas concret dans les Cévennes. On pouvait gérer un peuplement de pins maritimes et de châtaigniers selon ce mode de gestion là, et une fois qu'ils étaient bien imprégnés de ces idées, de ces images, de ces possibilités, eh bien nous avons fait effectivement plancher les élus sur les possibilités et les modes opératoires pour développer cette sylviculture sur le territoire. Donc on les a questionnés et il est ressorti quatre champs d'action possibles. Un premier champ d'action, eh bien, c'est de démultiplier les exemples sur le territoire en s'appuyant sur la diversité des peuplements forestiers, les diversités de situations que l'on peut rencontrer dans le Gard et en Lozère, à basse altitude ou à plus haute altitude. Parce que, en fait, nous sommes tous convaincus qu'on convaincra par l'exemple et par la réalité concrète. Donc, la première chose, effectivement, c'était ça, c'était essayer de développer un peu un réseau et un maillage de peuplements forestiers ou de forêts exemples. Les forêts communales peuvent jouer vraiment un rôle important là-dedans. La deuxième chose, c'est de continuer à se former pour mieux maîtriser cette sylviculture-là, parce que plus on la connaît, plus on la maîtrise, plus on peut en parler de manière pertinente et efficace. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe qui est un petit peu associé, c'est la diffusion du message. Et la diffusion du message, elle peut passer à travers par la communication qui est faite dans les bulletins communaux, intercommunaux, sur les sites internet des chartes forestières de territoire, en disposant de relais dans chaque commune pour avoir des conseillers forestiers, des conseillers municipaux, on va dire, dédiés à la forêt, et pour pouvoir relayer l'information aux habitants et aux autres conseillers municipaux. Voilà, donc c'est vraiment cet aspect communication là qui est vraiment ciblé en troisième axe. Et enfin, il y a un quatrième axe qui nous avait semblé un peu pertinent, c'est que les communes ou intercommunalités puissent jouer aussi un rôle dans l'accueil et le développement d'entreprises de travaux forestiers, puisqu'en fait nous manquons globalement de ces intervenants là et dans la sylviculture irrégulière nous avons besoin de professionnels compétents, très techniques, et c'est vrai que la mise en œuvre elle sera correcte si on peut trouver et on peut s'appuyer sur ces personnes-là, ces personnes ressources-là, Et les communes, eh bien, peuvent jouer un rôle dans l'accueil privilégié de ces intervenants, peut-être en leur mettant à disposition du matériel, en favorisant leur venue sur le territoire et leur installation, eux et leurs familles. Voilà un petit peu les quatre axes que nous avions imaginés. Et tout ça va se développer, se déployer progressivement dans le temps.
Merci Loïc pour toutes ces informations sur la gestion irrégulière. Pour finir, est-ce que tu as un petit mot forestier à nous partager ?
Un petit mot. Je sais pas trop. Disons que la société, en fait, au sens large, s'aperçoit de plus en plus des bienfaits de la forêt. Elle a une certaine image de ce qu'est la forêt, de comment elle devrait fonctionner. De l'autre côté, vous avez les forestiers qui sont souvent des amoureux de ce métier-là, de ce domaine, de cet écosystème. Et je pense que la sylviculture irrégulière pourrait vraiment faire une union entre ces différents publics, le public des professionnels et le public de la société. Puisque, en fait, quand on gère un peuplement forestier en traitement irrégulier, eh bien, en fait, on est vraiment au cœur de la forêt. On comprend un petit peu comment elle fonctionne, on l'accompagne, on s'en sert, elle nous sert. Et je pense que, voilà, c'est une bonne perspective pour travailler main dans la main et développer un peu cette ressource qui est fantastique là pour nos territoires. Et qui mérite qu'on s'y intéresse encore et encore.
Merci beaucoup, Loïc, de nous avoir partagé toutes tes connaissances sur le sujet. Et à bientôt.
Avec plaisir, à bientôt.
À bientôt.
Vous êtes toujours sur Radio Barthas 107FM et nous vous proposons une pause musicale avec une reprise du titre Off Forest, initialement du groupe The Cure, revisité par le groupe Nouvelle Vague.
Trees, find the girl if you can. Come closer and see into the dark. Just follow your eyes, just follow your eyes. Never there, it's always the same.
Bonjour Aymeric.
Bonjour.
Aujourd'hui, tu as voulu nous parler d'une espèce d'insecte qui est liée plus ou moins à la gestion irrégulière.
Oui, en quelque sorte, mais pas que. Alors, je voulais vous parler des fourmis, mais vous allez peut-être comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. C'est tout simplement après une expertise en forêt régulière, c'est-à-dire ces forêts qui ont été plantées dans les années 50, 60, 70, toutes donc à exactement la même époque, et qui bien souvent n'ont quasiment pas été touchées depuis, et on commence à s'apercevoir que ces forêts sans gestion, justement un peu en irrégulier, se retrouvent soumises à beaucoup d'attaques, notamment de ravageurs, mais également des dépérissements liés à des champignons, des choses comme ça. Et nous, on a eu à émettre des avis, en fait, en circulant dans ces forêts pour essayer de mettre en évidence quels étaient les enjeux de conservation, quelles étaient les espèces éventuellement à préserver ou éventuellement les nids qu'on avait trouvés ou les, voilà, toute autre espèce intéressante à faire connaître à l'exploitant forestier. Et en circulant dans cette forêt régulière, je me suis aperçu que les seuls points de biodiversité importante, c'était finalement les points d'irrégularité de cette forêt. Et donc c'était des clairières dont l'origine était un peu pas forcément visible comme ça, peut-être deux ou trois arbres qui étaient tombés en même temps il y a quelques temps et ça s'était maintenu en clairière. Les rochers et les zones humides. Et donc finalement, la biodiversité a besoin d'irrégularité en forêt pour se maintenir. Ça, c'est déjà un premier point. Et une des espèces, voilà, qui peut et qui a besoin même de clairières, c'est un groupe de fourmis qui font des dômes. Je ne sais pas si vous avez tous vu en forêt ces fameux dômes de fourmilières qui peuvent monter presque jusqu'à un mètre de haut et qui accueillent entre 100 et 200 000, voire plus de fourmis, et qui sont parfois même reliés entre différentes colonies, qui ont plusieurs reines, et qui du coup peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers, voire jusqu'aux millions d'individus dans la même colonie, à plusieurs dômes. Et donc ces fourmis, ces dômes, pour qu'ils arrivent à être actifs, il leur faut du soleil une partie de la journée. Et si possible, le plus tôt possible dans la saison. Et donc, s'il n'y a pas de clairière, il n'y a pas de soleil, et ces fourmis n'arrivent pas à se maintenir ou à s'installer, en fait. Donc, ces dômes de fourmis, si vous faites attention où est-ce qu'ils se situent, bien souvent, ils se situent en bordure de forêt ou dans des clairières. Et en plein milieu d'une forêt très sombre, c'est très rare de trouver des dômes de fourmis. Voilà pourquoi il y a un lien finalement entre la présence de ces dômes de fourmis, la gestion en irrégulier, et donc c'était une façon de pousser vers la gestion irrégulière. Mais pourquoi ? Non pas pour qu'il y ait des fourmis, mais parce que ces fourmis, elles sont utiles. On s'aperçoit qu'elles ont plein de fonctions. Et je vous en citer quelques-unes et qui peuvent intéresser les forestiers. Notamment, la première de ces fonctions, c'est de limiter les prédateurs foliaires. À l'endroit où il y a des grosses colonies de fourmis, les chenilles n'ont pas vraiment la place de s'installer en masse. Et donc, voilà pourquoi il serait intéressant de faire des petites clairières, ça et là, pour accueillir ce dôme de fourmilières. Donc ce sont des bons limitateurs de prédateurs foliaires. Ils ont encore plein d'autres utilités. Ce sont des excellents remueurs de terre. On connaît très bien la fonction des vers de terre. On dit que les vers de terre en forêt remuent environ 15 kilos par mètre carré. Et par an.
C'est
déjà pas mal.
Oui.
Ben les fourmis, alors toute espèce confondue, pas uniquement ces dômes de fourmis rousses, c'est en moyenne 5 kilos par mètre carré. Donc à l'échelle d'un hectare, ça fait beaucoup. Mm-hmm. Donc ça vraiment un recycleur et un mélangeur et qui participe à aérer le sol et donc à le rendre plus fertile et plus intéressant pour les forestiers.
Et sur quelle épaisseur à peu près de sol?
Ça dépend de l'épaisseur du sol, c'est-à-dire qu'ils vont pas aller dans la roche, mais dès lors qu'il y a de la matière organique dans le sol, ils vont le mélanger, elles vont creuser des galeries assez profondes pour se mettre à l'abri, pour élever les jeunes, ou donc ça peut aller à plusieurs dizaines de centimètres sous le sol.
D'accord.
Je vais vous donner quelques chiffres sur ces fourmis parce que c'est en dehors de ça. Oui, j'ai pas donné toutes les fonctions. Donc recyclage de la matière organique, limitateur de ravageurs comme je l'ai dit. C'est un excellent transporteur de graines aussi. Il y a des fourmis qui sont capables de transporter, qui n'ont d'ailleurs comme fonction unique et comme source de nourriture unique, les graines. Donc elles vont moissonner, c'est comme ça qu'on les appelle, ce sont des fourmis moissonneuses, elles vont moissonner sur une aire beaucoup assez vaste et participer à la dissémination des graines, parce que parfois les graines, sur les graines, c'est pas tant l'intérieur de la graine, mais c'est tout ce qu'il y a autour de la graine, c'est des petites glandes sucrées qui vont les intéresser, et dès lors qu'elles ont prélevé ces glandes sucrées, la graine ne les intéresse plus. Donc, bien souvent, elles transportent ces graines et en cours de route ou dans la fourmilière, elles vont prélever ces petites glandes et du coup transporter tout un tas de graines. Donc, il y a des plantes comme ça qui ont été étudiées, comme les violettes, les anémones ou les euphorbes, et la dissémination de leurs graines est complètement liée au transport des fourmis. Donc vous mettez une euphorbe ou une violette à côté d'une fourmilière moissonneuse, et vous allez voir au bout de quelques années que selon les trajets des fourmis, les violettes vont se disséminer le long des chemins habituels de ces fourmis. C'est assez original comme expérience. Enfin, vous pouvez vous amuser. Enfin, les fourmis, c'est une source de nourriture pour beaucoup d'espèces dans la forêt, notamment les pics. Il faut pas essayer de manger un pic vert ou un pic noir, parce que ceux qui ont essayé, c'est comme s'ils mangeaient des fourmis. En fait, c'est pas et quand vous voyez des dômes de fourmis qui semblent éclater, éventrer, c'est bien souvent le pic noir qui est arrivé, ou le pic vert, et qui est venu se servir dans les larves en creusant son petit trou, et il est quasiment insensible aux piqûres et aux jets d'acide de ces fourmis. Donc il y a des pics qui se nourrissent, il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens. Il y a le fameux fourmilion, je sais pas si tout le monde connaît le fourmilion.
Non, qu'est-ce que c'est?
C'est un drôle d'insecte qui ressemble à une libellule à l'état adulte, et sa larve, c'est assez atroce, parce que elle construit dans des zones sableuses des petits entonnoirs qui font 4 à 5 cm de profondeur, donc dans du sable, et elles attendent patiemment qu'un insecte, notamment des fourmis, tombe dans cet entonnoir, et comme il est fait de sable, l'insecte tombe dans l'entonnoir et n'arrive pas à en sortir, et ses mouvements vains pour remonter le long de l'entonnoir font que le fourmilion qui est au fond et qui attend cet insecte, il jette du sable pour aider à ce que l'insecte tombe au fond. Et là, il se fait attraper par le fourmilion, donc la larve de ce fourmilion, et il se fait manger, tout simplement. C'est assez atroce, mais c'est assez intéressant. Bref, donc les fourmis nourrissent des fourmilions, nourrissent aussi tout un tas d'araignées, etc. Donc elles ont une fonction, on retiendra pour le forestier, la limitation des ravageurs, mais aussi le recyclage de la matière organique, et puis le transport des graines, c'est pas anodin. Voilà, donc il y a c'est pas uniquement parce que elles ont une fonction qu'il faut conserver des fourmis, évidemment. Il y a énormément de choses très très intéressantes sur les fourmis. Moi j'ai lu un bouquin qui date de il y a quelques années, mais qui rapporte plein de records sur ces fourmis et de faits sur les fourmis à l'échelle mondiale comme à l'échelle européenne ou française. Et j'inviterais presque les auditeurs à aller chercher. Il y a un petit site que je trouve assez sympa qui s'appelle 100 questions sur les fourmis, et qui répond à tout ce qu'on peut se poser sur les fourmis, et qui est très très vaste. Moi j'ai retenu quelques records, parce que c'est les fourmis comme les insectes, ils sont bourrés de records. Alors on avait parlé, souvent on a retenu ça quand on était enfant, qu'une fourmi était capable de porter 50 à 60 fois son poids. On trouve ça énorme, parce qu'à notre échelle, ça voudrait dire qu'on pourrait aller, pour moi, ça ferait beaucoup, 8 fois. faudrait que je fasse un calcul. Ça ferait que je pourrais porter 4 à 5 tonnes, ce serait sympa.
Oui.
C'est ce genre. C'est pas forcément les insectes qui portent le plus. Je parlerai bientôt des coléoptères. Les coléoptères sont capables. Il y a un coléoptère, notamment un bousier, qui sont capables de porter de déplacer et de soulever plus de 1000 fois son poids.
Trop fou.
Alors là, c'est assez impressionnant.
Émeric, tu viens de nous parler d'un ouvrage que tu as lu sur les fourmis.
Ouais.
Mais peux-tu nous donner le titre?
J'ai peur qu'il soit plus disponible, parce qu'il a quelques années, date de 2006. Mais ce qui est raconté dedans est encore valable. Mais il y a sûrement maintenant d'autres livres qui parlent des fourmis. Ça s'appelle La véritable histoire des fourmis, d'un professeur qui exerçait à Toulouse, Luc Passera. C'est un ouvrage passionnant que j'ai lu pendant le confinement et qui m'a donné envie d'étudier les fourmis. et qui parle de tout, de la communication, de toutes les anecdotes sur les fourmis qui élèvent des champignons en Afrique tropicale, ou les fourmis légionnaires qui ont des fourmilières qui bougent, qui sont nomades avec plus d'un million d'individus et qui font des razzias dans la forêt tropicale. Il y a vraiment plein d'anecdotes, c'est vraiment passionnant les fourmis. Oui. Mais il y a aussi aujourd'hui il y a plein de petites vidéos sur internet qui parlent de chacune de ces fourmis, et donc à chaque fois qu'il citait une fourmi, j'allais voir une vidéo d'ailleurs sur cette fourmi. C'était passionnant. Il y a des fourmis je vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais vous donner quelques records. Notamment, il parle d'une fourmi qui est une des espèces d'insectes les plus rapides au monde sur le sol, malheureusement qui est dépassée par un coléoptère, mais j'en parlerai après. C'est une fourmi du désert, du nord du Sahara, en Algérie, Tunisie, Maroc, qui est capable de se déplacer de 100 fois la longueur de sa taille par seconde.
Énorme.
Alors, si nous on faisait la même chose... C'est comme si on se déplaçait à 600 km/h.
Okay.
En fait, c'est des super-héroïnes, quoi, les fourmis.
Oui, c'est hallucinant. Ouais. Et alors, si elle a besoin de se déplacer si vite, c'est pour limiter en fait le temps de contact avec le sol qui est extrêmement chaud. Et
c'est une
stratégie d'adaptation. Et du coup, c'est assez curieux, mais cette fourmi sort de sa fourmilière à des températures très élevées pour échapper à son prédateur qui est le lézard. Et donc, au-delà de 50 degrés, le lézard ne sort plus. Mais au-delà de 50 et quelques degrés, donc de quelques degrés de plus, elle-même meurt. Et donc, elle choisit ce petit créneau de température, donc elle sort aux heures chaudes finalement, pour aller moissonner tous les cadavres d'insectes qui traînent à ces températures-là. Parce qu'au-delà de 50 degrés, il y a beaucoup d'insectes qui meurent. Et donc, elle y va à toute vitesse. Et elle revient à toute vitesse avec sa cargaison d'insectes morts ou d'animaux morts, en échappant aux lézards. Donc voilà, c'est tout ce genre d'anecdotes citées dans ce bouquin. Et d'autres records dont on pourrait parler, j'ai tout simplement le nombre d'espèces dans le monde, et ça évolue tout le temps, parce que là j'ai un chiffre qui date de 2006, donc autant dire que c'est très très vieux comme chiffre, mais il y a 12 000 espèces de fourmis. Et rien qu'en France, on en a 215, donc c'est pas forcément un groupe très très diversifié, mais c'est déjà pas mal. Et ça donne envie de l'explorer, parce que elles sont vraiment passionnantes. Je citerai un autre exemple de fourmis dans les pâturages qu'on a ici sur les côtes, notamment dans les vieux pâturages qui n'ont pas été touchés par un tracteur. On trouve des dômes qui ressemblent à des grosses taupinières de 40 à 50 cm de diamètre et de 40 cm de haut, mais qui sont couverts de plantes. Donc c'est pas vraiment des taupinières. Et en fait, c'est bien des fourmilières, mais qui n'apparaissent pas à l'œil nu en surface. C'est des fourmis qui vivent uniquement sous la terre et qui élèvent en fait des pucerons sur les racines des plantes. Et elles forment petit à petit un dôme qui est assez élevé. Et la curiosité de ces dômes, c'est qu'ils sont très longévifs. En fait, les reines qui vivent là-dedans peuvent vivre 20 à 30 ans. Et donc, forment petit à petit un dôme qui est assez élevé. Donc, aux endroits, on a trouvé comme ça des zones où il y en avait beaucoup. Je pense notamment au col de Perjuré, entre Mairesse et Florac, où il y a un endroit où il y en a plein. Il y en a tous les 10-15 mètres, on trouve de ces dômes-là. Et c'est intéressant parce que c'est une fourmi qui est aveugle, quasiment aveugle, qui vit tout le temps sous terre et qui élève des pucerons sous terre, donc qui forment des drôles de dômes. On a toujours entendu parler qu'il y avait une reine dans les fourmis. Une reine, on s'imagine que c'est elle qui file les ordres à toutes les fourmis. Et en fait, pas du tout. Il faut arrêter d'utiliser ce terme de reine, y compris d'ailleurs pour les abeilles, puisque c'est pas du tout l'idée d'une monarchie, en fait, une colonie de fourmis. C'est presque même exactement l'inverse, c'est-à-dire que la reine ne sert que à donner une identité à la colonie, une identité chimique.
C'est la porte-parole.
C'est elle qui aide à chaque individu de la colonie, qui aide à se reconnaître entre elles et à se dire qu'elles font partie de cette colonie. Elles se reconnaissent de manière chimique. Elle va donner à la naissance une odeur chimique à chacun de ses enfants. Et ils vont pouvoir se reconnaître tout le reste de leur vie.
Et en fait, il n'y a personne qui donne d'ordre.
Pas vraiment. En fait,
c'est des anarchistes.
En fait, non, pas du tout. Oh. Chaque individu a pas à son autonomie propre, mais à la capacité de par exemple pour la recherche de nourriture, à partir sur un chemin, et dès qu'il trouve une source de nourriture, il va émettre une phéromone de recrutement pour attirer d'autres fourmis et leur dire « Venez voir, j'ai trouvé un truc à manger ». Et ça fonctionne comme ça. En fait, chaque fourmi a cette espèce de message interne qui dit qu'est-ce qu'elle peut faire pour que la colonie fonctionne, en fait. C'est comme ça que ça marche. Chaque fourmi a cette fonction de pas travailler pour elle-même, mais de travailler pour que la colonie...
pour le groupe.
Fonctionne, voilà.
Okay. Donc mais il n'y a pas de pouvoir, finalement.
Il
n'y
a pas vraiment de pouvoir, mais chacune a cette capacité, donc soit d'émettre une hormone de recrutement quand elle trouve à manger, une phéromone de recrutement, une phéromone d'alarme quand la fourmi est attaquée, par exemple, par un pic ou par un humain. Il y a aussi des phéromones de sexuelles pour quand c'est la période des amours, des phéromones territoriales pour protéger le territoire des fourmis, ou de tout simplement les phéromones de reconnaissance des fourmis entre elles. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand une fourmi naît, elle a très peu de phéromones d'identité de la colonie, et elle peut être entre guillemets adoptée, en fait c'est plus souvent pillée par d'autres fourmilières, d'autres espèces, et se croire, si elle naît dans une autre fourmilière, se croire être de la fourmi. Ce qui fait qu'il y a des comportements qu'on peut pas
expliquer.
Non, qu'on peut pas promouvoir, mais qui existent dans la nature, c'est les comportements d'esclavagisme. Et il y a notamment une fourmi rousse des bois qui est capable de faire des razzias dans d'autres fourmilières, d'autres espèces différentes, d'aller piquer des cocons, des œufs, qu'elles vont ramener dans leur fourmilière, et les fourmis qui vont naître, même si c'est des fourmis noires ou d'autres fourmis, elles vont se croire appartenir à cette fourmilière et travailler pour cette fourmilière, à la fois pour élever, pour aller chercher de la nourriture, etc. C'est bon, bref. C'est très, très, passionnant.
Oui, passionnant, oui.
Et complexe, voilà. J'en arrête là, mais il y aurait plein d'aventures. Moi, je vous invite à regarder ces fourmis, tout ce qu'elles sont capables de faire, et c'est assez hallucinant.
Merci Aymeric Silmon.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Vous êtes toujours sur Radio Bartas 107FM. Merci d'avoir suivi cette émission. Et si vous souhaitez qu'on aborde un sujet particulier, n'hésitez pas à faire un petit message à Corto, à l'adresse suivante, corto@radiobartas.net. Merci Margot, à bientôt.
À bientôt.
Plaquer mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies.
Palabre en forêt,
l'émission Lozéro-Gardoise,
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Bartas
107FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.